Radio Belle de Mai, 88.8.
Hey, c'est Radio Belle de Mai.
Radio Belle de Mai.
Oui, vous écoutez le 88.8. C'est une émission en mouvement, comme je le disais, c'est-à-dire qu'on change de plateau régulièrement, donc on change aussi d'invité autour de la table. Et c'est vrai que pendant ces pauses musicales, évidemment, nous soufflons, mais nous prenons aussi le temps de prendre quelques verres et de poursuivre la discussion. Toutes les discussions ne peuvent pas passer à l'antenne, car l'antenne est toujours un endroit où on formalise, disons, et il est important qu'il y ait des endroits plus informel où la discussion peut se poursuivre. On va donc continuer ce plateau un peu exceptionnel. Moi, je suis très heureux de ce plateau, de ce qui s'échange. On a parlé des équipements à la Belle d'Amé, on a parlé de la caserne du Muy et de son projet, on a parlé évidemment des écoles, les écoles qui vont craquer à la belle de Mai, et on a parlé de cette politique qui vise d'une certaine manière à peut-être casser l'école publique. Et maintenant, on va parler de la question des logements à la Belle de Mai. Cette question du logement est importante parce que, bien sûr, elle s'articule avec la question des écoles. Serge le disait tout à l'heure. Il disait, eh bien, on construit beaucoup de logements, mais s'il y a un problème d'école, s'il n'y a pas assez d'écoles, où vont aller les enfants dans ces logements ? Alors, autour de la table, toujours Claude et Serge.
Vaillamment.
Vaillamment, exactement. Merci à vous.
On résiste.
On résiste, on picole pas trop, mais alors après, je vous dis pas.
Et puis, nous a rejoint Philippe, je sais pas si j'ai bien le prononcé, Philippe Peck Kretmann, c'est
Kretmann,
ça
presque,
Kretmann,
ouais.
Pardon, Philippe Peck Kretmann.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous êtes un invité, puisque vous habitez la Belle de Mai, mais vous allez nous parler d'un projet qui est le projet Place des Abeilles, un projet d'une coopérative d'habitants. On va en parler tout à l'heure. Et puis, nous a également rejoint Marie Baglieri. Bonsoir, Marie.
Bonsoir.
Peut-être pour ouvrir cette question des logements, Marie, Serge, peut-être tu peux nous dire un peu pourquoi tu as souhaité inviter Marie pour parler des logements.
Alors Marie, n'écoute pas. Marie, en la matière, c'est une princesse. Si le militantisme n'existait pas, elle pourrait l'inventer, notamment en matière de logement. Elle le dira mieux que moi tout à l'heure. Et à chaque fois, le CQ, c'est un peu quelque chose de généraliste. On n'est pas des spécialistes sur une thématique bien précise. On a la prétention immodeste de bien connaître notre quartier, de bien connaître notre territoire. Mais on connaît surtout les acteurs de ce territoire. Et chaque fois que s'est posée la problématique du logement, et Dieu sait si à la Belle de Mai, c'est un vrai problème, à la Belle de Mai et au Grand Belle de Mai, parce que Marie est de Saint-Moron, il faut le dire. Mais je le dirai, dit-elle. Et c'est vrai que Marie, chaque fois que des gens sont venus solliciter le comité d'intérêt de quartier autour des problématiques de logement, chaque fois que des gens se sont retrouvés à la rue, abandonnés, exploités par les propriétaires, Marie a su créer les conditions pour monter les dossiers qui vont bien, pour répondre à la demande, pour adresser. Et elle a eu le mérite, j'ai fini là-dessus, de créer quelque chose qui est quand même majeur sur le 3e arrondissement, qui s'appelle le collectif logement, mais on en parlera, objectif logement, mais on en parlera mieux que moi.
Alors justement, il faudrait donc rappeler, on dit que ce 3e arrondissement de Marseille, il est souvent considéré comme le plus pauvre arrondissement de France. Certains disent même d'Europe. Ce qui est sûr tout de même, c'est qu'il y a une vraie pauvreté à Marseille. Et nous rentrons là, je crois, dans la période où les expulsions de logements vont pouvoir être à nouveau autorisées. Hein. C'est l'année prochaine. Voilà. Oui, exactement. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on va arrêter les expulsions. Et souvent, d'ailleurs, avant que cette période n'arrive, on accélère les procédures. De ce point de vue-là, puisque vous êtes sur les défenses des locataires, est-ce que, ici, à la Belle de Mai, il y a beaucoup de procédures d'expulsion de logements ?
Alors, je ne connais pas l'intégralité, parce que les expulsions, c'est surtout aussi et beaucoup... par rapport aux dettes de loyer, par rapport à des trucs comme ça, hein, par rapport, c'est le plus gros morceau, je crois. Les gens qui n'arrivent plus à payer, les gens, etc. c'est vrai qu'il y en a, il va y en avoir vraisemblablement, et il y a une mobilisation qui se fait pour intervenir auprès de la préfecture et éviter une hécatombe. C'est vrai que les gens sont très très mal logés, mais ça nous vient aussi de tout un apport qui nous, lorsqu'on a fait tous les beaux quartiers de Marseille, lorsqu'on a fait les
le panier. Alors vous pouvez prendre le micro.
Oui, hein. Vas-y.
Oui, les quartiers en fait centraux, dirons-nous, paniers qui ont été réhabilités. En fait,
on a rabattu
les gens de la République.
On a donc rabattu un petit peu l'ensemble des populations précaires vers le plus, et ils se sont installés où ? Les quartiers les plus proches du centre-ville, c'est-à-dire Saint-Mauron, la Belle de Mai, en sachant que le troisième, c'est quand même d'autres quartiers. Il n'y a pas que la Belle de Mai. C'est vrai que la Belle de Mai, c'est un peu le pignon, là, le centre, mais il y a d'autres quartiers. Alors nous, je voulais quand même compléter un petit peu ce que disait Serge. Si on est arrivé, d'abord c'est parce que je suis dans une organisation reconnue nationalement pour la défense des locataires, des consommateurs et des usagers, la CLCV, et qu'à ce titre-là, on intervient dans tout ce qui fait la vie des familles. Je voulais faire le lien avec l'école, et je dis toujours, j'ai toujours dit depuis que je suis militante dans le domaine du logement, de la consommation et de l'usage, et également de l'éducation, puisque j'ai démarré par le secteur école et famille, c'est de dire, les familles, on ne les coupe pas en rondelles. Elles ne sont pas à la fois des locataires, puis des parents d'élèves, puis des consommatrices, puis des... Voilà. Par contre, les enfants également, je le dis et je l'ai souvent dit aux enseignants, les enfants ne laissent pas au porte-manteau tout ce qui fait leur vie en dehors de l'école, ce qu'ils passent dans les logements, ce qu'ils passent sur le quartier, etc. C'est pour ça que je trouvais que la suite logique, c'était de dire, on se bat, nous, à l'heure actuelle, outre tous les autres problèmes qui se posent aux familles, notre souci dans le cadre du collectif Objectif Logement qui s'est créé il y a déjà aux alentours de 2000, où on avait fait venir, où on avait fait un film. Alors on était allé voir le préfet de l'époque, le préfet délégué de l'époque, pour lui dire voilà ce qui se passe chez nous, voilà ce qui se passe à Saint-Mauron, à Belle-de-Mai, puisque nous on était Saint-Mauron, Belle-de-Mai et environnement. Et bon, on lui avait donné, il avait tout le dossier. Mais lorsqu'il est venu au Théâtre Tourski et qu'il a vu le film, je me le souviens, il y avait Madame Narducci entre moi et lui. Il s'est penché, il me dit, Madame Bagdéry, mais j'hallucine. Monsieur, on vous l'a montré, on vous l'a donné sur papier. Sur papier, vous n'avez pas compris. En image, vous le voyez.
Il faudra le projeter au Gyptis, voilà. Ce film.
On a projeté au Gyptis. Et c'est de dire que c'est par là qu'on a véritablement commencé.
Lorsque vous dites on n'est pas parents d'élèves d'un côté, puis après locataires, puis après, je ne sais pas, public, par exemple, dans une salle de spectacle, qu'on est en fait simultanément tout cela à la fois. On est simultanément parents d'élèves et simultanément locataires. Eh bien, il me semble quand même que c'est cela la politique de la ville, c'est de construire une politique intersectorielle. Et d'ailleurs, je crois que la ville de Marseille s'en est un petit peu rendu compte, puisque c'est le programme de la politique de la ville, là, sur la question de la santé, est parti sur la question du logement. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que les inégalités au niveau de la santé sont liées, en fait, aux inégalités au niveau du logement. Alors, Claude.
Oui, alors, c'est effectivement, dans le cadre de la politique de la ville, une des grandes priorités. J'ai animé à un moment donné le groupe qui s'occupait de l'ensemble des services publics. Et donc, j'avais une de mes collègues qui avait travaillé à Médecins du Monde, qui a monté, qui est à l'origine de ce qu'on appelle les ateliers santé-ville, et qui vise effectivement de donner des moyens. Moi, là, je ne sais plus où on en est exactement, ni de ce qui se passe sur le quartier, mais de mettre en réseau l'ensemble des acteurs de la santé sur un quartier, et en particulier de pouvoir lutter contre les logements insalubres. Et moi aussi, j'ai appris récemment dans une des réunions où j'étais sur le développement durable que notre quartier était effectivement un des quartiers où la question de la santé liée au logement était des plus précaires. Et pourquoi ? Parce que nous, dans notre quartier, on dit souvent... Enfin, nous, là, je suis Belle de Mai, je ne pense pas sur Félix Piat et Samouron, on est dans une dimension où, effectivement, les copropriétés dégradées qu'on a connues ont effectivement créé des conditions qui ressemblent à celles du logement indigne et diffus qu'on a sur la Belle de Mai, mais quand effectivement l'humidité, perce les murs, quand on glisse avant de rentrer chez soi, quand les étages ne permettent plus aux personnes âgées d'accéder à leur logement, etc., on est dans des situations qui font que la santé, les difficultés de poumons, en particulier des enfants d'asthme et autres, sont extrêmement aggravées. Donc il y a effectivement une des priorités. J'espère que dans le contrat de ville dont nous allons être des acteurs, je pense qu'il nous faut effectivement que cet accès à la santé soit plus visible qu'on ne l'a été. Parce que je regarde autour de moi, je pense que sur la Belle de Mai, nous n'avons pas été porteurs. Moi, je me tourne vers vous également. Est-ce que vous avez participé à des ateliers santé-ville ? Est-ce que vous avez pu amener des propositions ? C'est vraiment, je pense qu'on n'a pas mesuré ça.
Je regrette, mais on ne travaille pas du tout comme ça. On participe à des activités, à des... Ce que je veux dire, c'est que on travaille avec les familles viennent nous trouver. Je veux donner simplement, on n'a pas en 2013, on a reçu en 2h30 tous les matins, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, on a reçu 2000 personnes, 2000 visites dans nos locaux. C'est pas possible tout ce qu'on a pu voir.
Attendez, pour quelle raison ?
Pour des problèmes justement de salubrité. Et croyez-moi qu'on n'attend pas qu'on nous mette en place un programme. On n'attend pas qu'on nous mette un programme. Il y a des services d'hygiène et de sécurité. Et ce que nous faisons, c'est qu'on part des problèmes que rencontrent les gens. Parce que pour nous, c'est d'abord et en priorité leur permettre d'avoir un logement décent, c'est la première chose, avoir un logement décent. À ce moment-là, on intervient auprès du propriétaire pour qu'il effectue des travaux. Mais ne croyez pas que ça ne se passe pas encore plus dans nos anciens quartiers et dans nos anciens villages comme Saint-Mauron et Belle de Mai. Et depuis qu'on a engagé l'action Objectif Logement, notre bilan, c'est qu'on a fait reloger sur l'ensemble du territoire de Marseille près de 200 familles, de la Belle de Mai, 200 familles.
Là, vous entendre, on voit bien finalement la question des logements neufs, hein, d'une certaine manière, qu'il manque hein, à la Belle de Mai. D'une certaine manière, il se construit beaucoup de logements neufs, mais ce sont des logements neufs pour des nouvelles populations, mais c'est la question de la réhabilitation de logements qui sont insalubres. Il y a cette question à la Belle de Mai qui est prégnante, puisque vous le dites. Donc en même temps, ça soulève la question, par exemple, des HLM. Bon, les logements HLM à la Belle de Mai, moi j'ai vu hein, comme information que ça représente un pourcentage de 7% de logements HLM. Et, la réglementation à l'échelle d'une ville, je crois que c'est 20%. Donc sur la Belle de Mai, on n'est pas au niveau d'une réglementation, on pourrait se dire, par quartier c'est 20%. On est à 7% sur le quartier de la Belle de Mai. Comment l'expliquer ?
Non mais enfin, je ne sais pas si je vais l'expliquer, mais... On peut être un peu inventif là-dessus. Et Marie, c'est pour ça que j'ai insisté pour que Marie participe à nos débats ce soir. Elle a une vision des choses. Les opérations à tiroirs. Marie, moi je pense que tu peux en parler de ça parce que c'est un peu tort.
Il y avait ces opérations. C'est évident qu'il y a eu pas mal de réhabilitation et notamment au niveau des HLM parce que nous avons aussi beaucoup d'anciens HLM. Et souvent, ce qu'on a pu obtenir, c'est que des locataires soient mis dans des logements en attente de la restauration de leur propre logement et ils ont réintégré leur logement. Donc on ne les a pas déplacés, on ne les a pas transplantés. Ça, c'est une première affaire. Je voulais simplement aussi signaler que à l'heure actuelle, l'idée de l'État ou autre, c'est de relancer les constructions et donc de faire appel à des promoteurs. Or, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle ? On a des promoteurs partout qui construisent. Et nous, sur Belle de Mai, justement, nous avons fait le triste constat des réalisations qui ont été faites par des promoteurs privés qui, après, revendent aux HLM. Et c'est une catastrophe. Et
pourquoi ?
Pour toutes les malfaçons, parce que ils achètent en vente en état futur d'achèvement, les bailleurs sociaux. Et on leur donne clé en main. Ça veut dire qu'après, ils se débrouillent de caser les gens. Il y avait une collègue qui était, elle est là, qui était du logement hors jeu. Je suis un peu plus proche de tout ce qui est 13 habitats parce que je suis élue locataire au conseil d'administration de 13 habitats. Donc, les habitants, me connaissant et sachant que je suis élue, qu'est-ce qu'ils font ? Ils me demandent d'intervenir. Et j'interviens. Et j'interviens. Et on a fait avancer des choses, mais pas assez à notre sens.
Oui. Claude ?
Moi, je pense que là, on aborde toute la question de la maîtrise par les habitants eux-mêmes qui se retrouvent dans le logement social, du suivi de leur aventure de vie. Des gens qui rentrent dans le logement social, ils rentrent quelquefois, c'est une famille de 3 à 4, un divorce. Finalement, le logement devient trop grand, trop cher surtout, et ils veulent changer. Et ça, c'est extrêmement compliqué dans le logement social. Aucun, disons, appui, accompagnement n'est suffisamment fait. Et on avait, avec Patrick Bouchain d'ailleurs, il a créé une association qui s'appelle Notre Atelier Commun et qui vise dans les grands ensembles à essayer de faire que les locataires puissent avoir une maîtrise d'usage sur leur logement. Je prends un exemple parce que si eux-mêmes veulent faire une amélioration sur leur logement, quand ils partent, c'est pas du tout pris en compte comme un travail qu'ils ont pu faire pour permettre effectivement à ce logement de s'améliorer. Je donne un exemple. Moi, j'avais une amie qui était venue dans mon HLM à Paris et qui était une artiste et qui avait peint mes toilettes d'une manière avec une faune incroyable. C'est une grande artiste. Quand je suis partie, j'ai payé pour qu'ils puissent remettre du blanc dessus. Et donc, dans tout un travail de réflexion qu'on a sur une autre manière de s'approprier le logement social, je vais passer la parole aux amis des abeilles qui sont en train de réfléchir en coopérative pour qu'il y ait une autre appropriation par les locataires de leur habitat.
Mireille, pardon, Marie.
Pas de problème.
Excusez-moi.
Voilà, Marie, non, simplement, je voulais dire que on a un logement, mais malheureusement, on ne peut pas y faire tout et n'importe quoi. Parce que ce qui plaît à un locataire ne peut ne pas plaire à un autre. Donc, on est obligé de remettre à l'État. C'est une première chose. Voilà. Et je voulais... Allez-y, après, j'aurai l'occasion de reprendre.
Je vous propose juste une petite respiration.
Ça ne me vient pas.
Non, désolé. La chanson que me chantait ma grand-mère.
J'y vais. En quelle langue vous voulez? J'aurais fredonné.
Mais tu vas passer à la télé, vas-y.
Un, deux, trois.
J'aime les films d'aventure, j'en ai vu un l'autre soir. Mais celui-là, je vous jure, que j'aimerais bien le revoir. Ça se passait dans une île, pleine d'oiseaux et de fleurs. J'imaginais sans rien dire, en se met comme, j'arrive pas à le dire, et en couleur, je me voyais à la moyenne. Je me voyais à Tahiti.
Radio Belle de Mai.
À la friche Belle de Mai, à la friche Belle de Mai, il y a un projet à la friche La Belle de Mai, et non pas l'Afrique, comme c'est écrit, ou le fric, comme c'est écrit à l'entrée parking rue Jobin. On vous montrera une photo d'ailleurs sur le fil Twitter Radio Belle de Mai, et vous avez cette photo, le fric, Belle de Mai. Mais non, bien la friche, à la friche, il y a un projet de construction.
De 45 logements sociaux, donc de locataires, qui doivent donc, dont la particularité, et ça sera développé par les Amis des Abeilles, dans une utopie de participation à l'aménagement de ces locaux et des dispositions de vie collective qui pourront s'y dérouler. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aura non seulement l'habitat, le plus possiblement transformable d'ailleurs par justement les habitants qui viendront, mais aussi il y aura toute une série de propositions communes, le buanderie, machine à laver, enfin buanderie c'est l'ancien terme, mais des espaces effectivement de services collectifs partagés, de lieux de rencontre, et donc il faut que les habitants qui vont être ça sera suivi par le logement social, qui vont effectivement permettre à des habitants d'accéder à ces logements-là, mais avec effectivement toute une dynamique de réflexion collective pour que puisse se faire avant l'entrée dans ces logements-là, disons, une culture commune de ce qu'ils vont avoir envie de faire ensemble, avec en plus la problématique de habiter à la friche, ça peut sembler sympathique, ça peut être aussi source de pas mal de tracas. Donc il faudra que les gens qui vont venir, soient bien au courant de ça. Il y aura des étudiants, puisqu'on va avoir des étudiants, il y a une partie qui va être en studio étudiant, puisqu'on va avoir les étudiants de l'école de théâtre qui va bientôt être terminée. Donc ça va demander, c'est une grande expérimentation que l'on mène. Et comme c'est une expérimentation, on a réuni des expériences déjà en œuvre ou en préfiguration, dont celle des abeilles.
Excusez-moi, avant, l'originalité aussi, c'est pas que des experts qui se réunissent sur la réflexion de ce projet-là, puisque largement le quartier de la Belle de Mai, le CQ et d'autres associations participe à la construction de ce débat, et ça mérite d'être dit, parce que on pourrait se dire c'est encore une bande d'utopistes, tu as employé le mot, oui, Claude, mais... c'est une bande d'utopistes qui se réunit et ils vont inventer quelque chose qui marchera pas, mais le quartier est associé à ça.
Absolument.
Avant de donner la parole à Philippe pour la place des abeilles, il va nous parler de ce projet parce que c'est un cas très concret d'expérimentation, disons avancée, hein, sur ce projet de coopérative d'habitants. Philippe Foulquier, vous vouliez dire quelques mots sur ce qui vient d'être dit.
Oui, parce que la construction de logements à la friche était un projet assez ancien qui appartenait d'abord à Patrick Bouchain, mais il y a plusieurs années. Et c'est un projet qui nous intéressait beaucoup à cause de cette possibilité expérimentale. Parce qu'il faut savoir que les contraintes qui tombent sur les constructeurs de HLM sont très sévères et laisse peu de place à l'imagination et à l'interrogation de la manière de vivre. On connaît les déboires, par exemple, du HLM que Jean Nouvel a construit à Nîmes. Et donc, l'idée de construire des HLM dans un lieu de culture, c'était aussi l'idée d'essayer de poser un certain nombre de questions, pas seulement en termes d'architecture, également dans ce que vous posez, vous, c'est-à-dire de vie collective, de rapport au quartier, de rapport aux activités culturelles, etc. Un peu à l'image de ce qu'on a voulu faire avec la crèche, où la crèche était quand même une crèche dans un équipement culturel. Ça ne veut pas dire que les enfants sont maltraités, ni qu'ils sont objets d'expérience. Ça veut dire qu'on tente des choses.
Philippe, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce projet Place des Abeilles ?
On dit merci à Philippe pour les problèmes, parce que nous, on a beaucoup plus la part de rêve et la part d'utopie, parce qu'effectivement, par rapport à tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, notre projet à nous de coopérative d'habitants, c'est un projet utopique et de rêve, effectivement, de ce qu'on pourrait faire si par hasard ça marchait. Effectivement, donc c'est un groupe de militants de l'habitat participatif qui ont décidé, il y a 3 ans, de créer Saint-Mauron sur 378 mètres carrés de dents creuses inexploitable, un projet de 12 appartements en coopérative d'habitants. Il s'agissait de développer donc du logement social, en locatif social, sur une propriété collective du terrain et donner à un bailleur social avec qui on a eu un partenariat pendant 3 ans, nous permettant d'accéder un jour à un immeuble à cet endroit. Alors, plus que de parler du projet, j'ai vraiment envie de parler de ce que représente cette chance de pouvoir envisager, parce qu'il y a un cadre législatif qui est venu avec la loi du flot, envisager dans un avenir, et peut-être bientôt à la Belle de Mai, la capacité de groupes d'habitants de créer une coopérative et d'habiter dans un logement social ou dans un logement propriétaire ou dans locatif ou en accession, etc. Cette notion de coopérative d'habitants, c'est quelque chose qui permet donc à des gens, des habitants, de prendre en charge leur projet d'habitat depuis le départ et jusqu'à la manière dont ils vont habiter ensemble. Et ça, c'est voilà, je crois que c'est le rêve de tout le monde qui habite partout, y compris dans les quartiers défavorisés. Et c'est à travers ces utopies. Et alors, notre projet est arrivé assez loin. On a un permis de construire, on a un terrain, etc., etc. Est-ce qu'il sortira un jour? On ne sait pas, parce que les hasards de la gestion des dossiers immobiliers est considérable. Mais en tout cas, la coopérative d'habitants, c'est quelque chose qui, à travers la participation, encourage la citoyenneté, ça développe la responsabilité individuelle des futurs habitants et collective à travers la sécurité résidentielle où on est loin de cette plaie dans ces quartiers de Saint-Mauron en particulier qui est ce logement social de fait entre les mains de marchands de sommeil.
Mais je m'interroge un petit peu, mais est-ce que ça ne demande pas de la part des habitants du temps pour s'engager dans cette coopérative? Et le temps aujourd'hui c'est très compliqué, non?
Pour l'instant, le projet Place des Abeilles, c'était un projet pratiquement unique en France. Donc effectivement, il n'y a aucun mode d'emploi. Ce n'est pas livré avec un mode d'emploi. Donc c'est vrai que ça demande un temps considérable. Mais
ça, c'est le temps de l'invention. Mais une fois que le projet est réalisé, est-ce que ça ne demande pas non plus un temps? Parce que dans le projet, ce que vous n'avez pas précisé, mais j'imagine qu'on a le temps, donc on va le préciser, c'est que dans le projet Place des Abeilles, il y a bien sûr des logements pour y habiter, mais il y a aussi une salle qui pourrait devenir salle de quartier. Donc ça demande aussi que les habitants prennent du temps pour la vie du quartier.
Le principe, je crois, des gens qui coopèrent, qui se lancent dans la coopération, sont des gens qui, en général, ont un caractère un peu avancé de ce que doit être leur place dans la société. Et effectivement, le projet de Place des Abeilles n'est pas fait à Saint-Mauron par hasard. C'est fait parce que, effectivement, les gens qui le montaient avaient une ferme intention d'agir sur leur quartier, d'agir sur les habitants du quartier, avec effectivement une salle polyvalente ouverte, avec des activités orientées sur le quartier et une activité économique donnant un ou peut-être deux emplois localement.
Claude.
Je voudrais souligner que ce type de projet, c'est ce qu'on appelle, ou un de nos sociologues favoris en tout cas de moi, c'est ce qu'il appelle les micro-projets. Et les micro-projets, ce n'est pas des petites choses, c'est effectivement des projets dans lesquels ceux qui s'y engagent maîtrisent du début jusqu'à la fin ce qu'ils sont en train de faire. Et ces projets sont porteurs de macro-projets et de macro-transformations. Et ça, c'est dans le droit à la ville. Il me semble qu'il faut qu'on soit les uns et les autres des soutiens, des micro-projets, des interstices dans lesquels on préfigure la ville de demain. Ici, autour de cette table, je crois qu'on a montré qu'on était, disons, des militants du présent et puis des exigeants pour l'avenir aussi. Et c'est à travers ces petites expériences, ces coopératives qui sont en train de sortir un petit peu partout. J'ai appris qu'il n'y avait plus, sur le territoire de la métropole, plus de 200 coopératives sur différents secteurs. Donc ce mode coopératif, que ce soit dans le logement, dans la culture, comme les sociétés coopératives qu'on a mis ici en place, sont une autre manière peut-être d'aborder pour l'avenir la société, de lui permettre de changer. Donc c'est ça qui nous semble aujourd'hui très important à soutenir.
Mais Marie, je vous vois, je vous vois douter.
Vous me voyez.
Et parce que je me dis,
vous me voyez.
Alors, les personnes que vous rencontrez.
Bon sang de bonsoir, je suis à 100 lieues. Voilà, je suis vraiment à 100 lieues quand je vois ce à quoi nous sommes confrontés et ce qui est proposé. Alors c'est pas que je sois contre le fait qu'il y ait des personnes qui veulent se mettre à... comme monsieur, on s'est rencontrés d'ailleurs. On s'est rencontrés sur Saint-Mauron. Voilà. Mais c'est de dire... là aussi, c'était un peu l'utopie de notre... là, c'est un petit groupe, un petit noyau, ça peut peut-être résister. Mais quand on voit qu'il y a des constructions et que dans la même construction, on met de la copropriété et des locataires, et que les bailleurs sociaux deviennent copropriétaires de l'immeuble, je dis, on lève tous les droits aux locataires. Parce que c'est l'Assemblée générale des copropriétaires qui décide. Et les locataires n'ont plus aucun droit.
Mireille, voilà. Bien sûr. Mais dans un... Dans... Marie, pardon. Mireille, mais pourquoi c'est... Je voilà, ne sais pas. Maintenant, c'est pareil. Pas Mireille,
non,
Marie.
Non, ce que je veux mais... dire... personnellement, je ne suis pas contre tous les projets qui peuvent se faire. Dans la mesure où des personnes de bonne volonté se mettent en branle, moi, mon souci, c'est que ce soit un collectif qu'on a composé, nous, mais que ça parte des habitants. Je veux donner un petit exemple. Il y a eu, pour Cardo, un projet. Et ce qui devait passer... de ce projet, on devait nous faire une route qui partait du boulevard de Plombières, qui remontait une petite traverse, un passe-collé, et censément pour désenclaver la butte Bellevue. Et il se trouve que les dégâts que ça allait causer étaient plus graves que le fait qu'on demande, par exemple, la mise en place d'un minibus. Et on l'avait demandé, on l'avait obtenu. Quand on a présenté, nous, on n'a pas pris position. On a invité les intéressés, nous, on n'était rien. Il fallait que ce soit eux. Et on a dit, voilà le projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui sera bon pour nous? Qu'est-ce qui posera problème pour nous? Et après, on a demandé aux mêmes personnes, qu'est-ce que vous proposez comme pour que ce soit vraiment viable? Et croyez-moi, les habitants ne sont pas complètement débiles. Et ils ont expliqué très précisément tous les problèmes qu'on allait avoir, tout, et ils ont fait des propositions. Je me suis contentée, en tant que responsable, de noter tout ça, d'en faire un dossier, d'aller à la mairie pour déposer en mairie dans les délais pour que ce soit pris en compte par les pouvoirs publics. Et je suis allée à une assemblée générale à la maison Porthos de la Belle de Mai. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé que c'était la guerre. Et les gens se seraient battus entre eux, Serge.
C'est vrai.
Battus entre eux. Nous, on n'a rien dit. Simplement, j'ai dit, moi, je voudrais quand même signaler qu'on a fait un travail. On a préparé un dossier. Les habitants l'ont préparé. Je ne signe jamais aucun accord sans que les habitants l'aient eu en main, l'aient réfléchi, et de donner leur propre position.
Mais ça, c'est de la maîtrise d'usage dont on parle depuis le début.
Laissez-moi finir, madame. Oui, excusez-moi, mais je pense que vous avez beaucoup parlé. Donc, j'essaye de prendre un petit peu.
Vous avez le temps, Marie. On a le temps.
Attendez.
Nous avons le temps.
Non, attendez. Alors, je termine, parce que si vous me coupez dans mon élan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Serge peut en être témoin. À la fin de la séance, ce n'était pas une concertation. C'était pas de la concertation, c'était, je sais pas moi, le ring. On avait mis.
Voilà. Ce que tu dis, Marie, c'est d'autant plus vrai que je me souviens, on nous avait dit ou vous acceptez notre projet ou on installe des roms. Ouais. Alors, tu vois un peu la concertation, voilà, à la limite. Là.
Et ce que nous avons fait, le responsable du projet est venu en fin de course me voir et me dit, madame, vous avez parlé d'un rapport, d'un dossier que vous avez établi. Oui, monsieur, voilà. Deuxième réunion, 15 jours après. Le projet est abandonné tel qu'il a été présenté la première fois. Nous reverrons le projet. Voilà. Mais c'est pas Marie Baglieri qui a dit quelque chose. C'est Marie Baglieri qui s'est fait le porteur de ce... Et souvent, on a la triste manie, nous qui sommes un peu plus militants, de préparer des projets pour les gens... et de vouloir les faire rentrer dans notre projet, et on prend tous les moyens pour qu'ils y arrivent. Voilà. Et je dis, il faut y faire très, très, très attention.
Je pense qu'on se fait un mauvais procès, là.
La seule différence, c'est que dans une coopérative d'habitants,
ce sont
les habitants qui habitent. C'est les coopérateurs qui habitent. On ne fait pas un projet pour les autres. et coopératives d'habitants est réservée aux des gens qui ont le projet d'habiter, oui, mais pas de louer.
Je voulais profiter de cette occasion pour dire, pas vous, puisque j'ai parlé des pouvoirs publics qui mettaient en place des choses qui ne correspondaient pas. Ça peut correspondre.
Oui, bien sûr, mais Marie, si vous permettez, et Serge, c'est là où justement, par rapport à ce que dit Claude, on se fait un mauvais procès. C'est-à-dire qu'il y a deux logiques de politique. Il y a effectivement la politique telle qu'elle se fait aujourd'hui, hein, qui peut être une politique hypocrite, qui peut être une politique violente, qui peut dire on vous concerte, mais en fait on ne vous concerte pas. Et puis, il y a des initiatives qui tentent d'imaginer cette logique de la maîtrise d'usage. Mmh. Moi, ma vraie question, en définitive, quand je me retournais vers vous et que je voyais douter, c'est de savoir si cette maîtrise d'usage, elle est vraiment accessible à tout le monde. Je veux dire si elle est accessible à tout le monde en termes de cette question du temps qu'on peut avoir. Parce que avoir du temps, c'est soit on a beaucoup d'argent et que quelque part on ne travaille plus, je ne sais pas, soit on ne travaille pas et qu'on peut avoir du temps. Mais cette question du temps, elle est importante. Et c'est la question du temps. Et c'est la question aussi de entre qui on parle. Parce que si on mélange plusieurs langues ou plusieurs cultures, c'est aussi plus compliqué. Et donc voilà, c'est cette question de savoir si cette maîtrise d'usage, là, pour des habitants, est-ce qu'elle est vraiment accessible à tout le monde et qu'est-ce que ça demande? J'imagine que tout le monde ne peut pas, pour rentrer dans le projet et pour habiter la place des abeilles, il y a des critères qui ne sont pas que des critères, j'imagine, de loyer, mais il y a des critères aussi d'investissement dans le quartier.
Il y a des critères d'attribution du logement social, d'abord, c'est à la base, et après, effectivement, c'est la coopérative qui gère l'immeuble. Donc, effectivement, mais comme dans tous les immeubles, hein, je crois qu'il n'y a pas un immeuble où, si les habitants s'en occupent pas, l'immeuble marche. Donc, effectivement, si les habitants s'en occupent pas, l'immeuble ne marchera pas. Mais comme c'est leur propriété collective, je suis sûr que s'en occuperont. Et prendront peut-être que 10 minutes chaque soir, mais enfin, en tout cas 10 minutes chaque soir.
On est quand même dans une culture, on est depuis longtemps dans une culture de la consommation. Hein. Donc, c'est-à-dire, et donc il y a une révolution culturelle, c'est une vraie révolution culturelle, ce que vous proposez.
On est dans une autre logique complètement, la logique de la coopération, donc toute cette logique qui se met en place peu à peu, effectivement, mais dans des zones expérimentales, complètement marginales, etc. C'est tout à fait vrai. Mais cette logique-là, elle est tellement humaine, elle est tellement naturelle chez nous. Elle finira bien par prendre sa place, même si pour l'instant c'est que du 0,01% de la production de logement. Mais voilà, c'est l'exemple et c'est la possibilité, la promesse future que demain il y aura tellement d'habitats participatifs partout que quelqu'un qui part d'un habitat participatif pourra aller dans un autre et trouver sa place avec des logiques de partage et de convivialité qui n'existent pas dans ces.
Serge.
Tu évoquais, si j'ai bien compris, l'appropriation culturelle de la maîtrise d'usage. C'est ça que tu disais.
Oui, c'est.
Alors, aujourd'hui, je ne vais pas faire le savant, mais quand on regarde la pyramide de Maslow et la position qu'occupe la grosse majorité, il n'y a pas de mépris ni de jugement dans ce que je dis. La place qu'occupe la grosse majorité des habitants dans la pyramide de Maslow, c'est vrai que la maîtrise d'usage, elle est tout en haut. Mais heureusement que ça existe. Heureusement que ça existe parce que ça crée un point repère et on se dit que lorsqu'on aura réglé les problèmes élémentaires, c'est-à-dire les problèmes de la base de la pyramide, eh bien, on ira vers ça. Et si on oublie ça, si on oublie de donner la parole aux habitants, si on oublie de dire aux gens prenez votre place, on risque de voir ce qui est en train de s'installer là en ce moment, c'est-à-dire que des gens prétendument initiés qui impose la façon de voir les choses. Et Marie l'a très bien expliqué. La problématique de la caserne Cardo, ça a été une consultation des habitants qui ont dit à la sortie, on est contre, mais à l'arrivée, on va faire une horreur urbanistique. Je répète ce que je disais tout à l'heure. On va construire des logements qui vont se transformer en ghetto. Et dans 15 ans ou dans 20 ans, on en reparlera. Nous, on n'en reparlera peut-être pas, mais d'autres en parleront à notre place. Et à ce moment-là, on s'apercevra que parce qu'on n'a pas écouté les gens, parce qu'on ne leur a pas donné la place d'usager qui peut être la leur, autour de ces projets-là, eh ben, on démolira. Mais ça, oui, ça, on prend une responsabilité de ne pas le dénoncer.
Serge, je ne vais pas reprendre Jaurès, mais il faut exiger la maîtrise d'usage et par le bas.
Je trouve que Marie a très bien expliqué que c'est par
les habitants et leurs demandes qu'on arrive à construire effectivement une revendication qui peut effectivement être entendue. Et pour moi, la maîtrise d'usage, elle n'est pas en haut, elle est en bas. Et elle doit, et la preuve de la capacité des gens à se retrouver pour en parler, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le nombre de gens qui participent, parce que la mairie de Marseille tout d'un coup se réveille par rapport à d'autres collectivités pour faire de la concertation sur la caserne du Muy. On a tous été un peu surpris et heureusement surpris du nombre de personnes qui ont participé et de la capacité collective à faire des propositions qui ne se contredisaient pas les unes les autres. Donc pour moi, c'est effectivement l'expérience que le fait, enfin la certitude que la maîtrise d'usage pourra se mettre en place.
Oui, non, mais je suis d'accord, mais les gens que j'évoquais là, mais en plus, je veux rester très humble là-dessus, je juge personne. Les gens que j'évoquais qui ont un quotidien qui est porté par, dans nos quartiers, qui est porté par le trafic de drogue, qui est porté par le chômage, qui est porté par tout ça, ils ne sont pas encore rentrés dans cette vision-là des choses. Mais tant mieux si nous, on la défend, et tant mieux si nous, on la porte, et tant mieux si nous, on la revendique.
Ouvrons les portes.
Heureusement qu'on le fait, mais aujourd'hui, ce n'est pas un quotidien de beaucoup de gens dans le quartier.
Et exigeons les moyens de le faire, parce que je n'étais pas intervenue là-dessus.
Tu l'évoquais tout à l'heure, le comité de citoyens,
il y a des moyens qui sont donnés pour ça, parce qu'avec nos petits bras, on n'arrivera pas toujours à faire tout ce qu'on veut.
L'habitat participatif demande une compétence que tout le monde a, et tout le monde a de manière absolument totalement experte, la capacité d'habiter et de vivre dans un appartement. Il n'y a personne qui ne soit pas complètement expert là-dedans, parce que c'est ce qu'on fait depuis qu'on est tout petit. Et là, l'habitat participatif, il ne s'occupe que de ça. Comment je vais habiter dans mon appartement ? Effectivement, quand on dit qu'il faut des compétences pour aller dans des concertations où on balance des plans, des machins et des trucs de construction compliqués, etc., etc. Là, il y a une sélection. Mais en tout cas, pour habiter et pour participer à son immeuble, à son appartement et à sa montée, il n'y a pas besoin de compétences. On l'a tous.